Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Oui, il est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, c'est les auditeurs.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Je vais parler de l'Italie.
Aïe, aïe, aïe.
Che bel paese. Mais bon, c'est pas trop fun en Italie actuellement.
Ouais, ouais, ouais.
Il ne t'a pas échappé, Mathieu, que dimanche dernier, là, 2 octobre, il y a une coalition droite, extrême droite, qui est arrivée en tête des élections législatives. En as-tu entendu parler? Une dame qui s'appelle Giorgia Meloni.
J'en ai entendu parler, mais ouais. De loin, j'ai pas tout compris de ce qui se passait.
Ce qui se passe, c'est qu'aux élections législatives, cette coalition a gagné, mais cette coalition est largement dominée par l'extrême droite, puisque le parti de droite officiel, Forza Italia, n'a recueilli que 8% des voix, tandis que le parti Fratelli d'Italia, donc de Giorgia Meloni, en a recueilli 26%, auquel il faut rajouter les 9% de la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui, pour info, était au pouvoir il y a 2 ans. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, il faisait environ 30% des voix. Il est tombé à 9%. Et Fratelli d'Italia a fait à peu près chemin inverse. Déjà, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, il y a une énorme volatilité des voix dans les partis, dans les élections aux États-Unis, en Italie, pardon, et une énorme abstention.
Ouais.
Les gens sont assez désespérés, ils changent en permanence de direction de vote. Alors, je vais laisser de côté la question de la bonne façon de dénommer ce fameux parti Fratelli d'Italia. C'est-à-dire, est-ce que c'est un parti fasciste? La réponse est non. Est-ce que c'est un parti post-fasciste? Si on entend par là que c'était autrefois un parti fasciste, oui, la réponse est oui, il est post-fasciste. Mais plus concrètement, on peut dire que c'est un parti d'extrême droite classique, très conservateur, xénophobe, très atlantiste, c'est-à-dire pro-États-Unis, et dont le nationalisme va le conduire très probablement à soutenir fortement des pays dans l'Union européenne qui ne sont pas des parangons de démocratie, c'est-à-dire la Hongrie et la Pologne.
Extrême droite xénophobe, ça ne fait pas fasciste?
Non, pas obligatoirement. Pour okay. Arriver à un parti fasciste, alors j'ai pas le temps de développer, mais si tu veux, un jour, je t'expliquerai le petit plus, ce qu'il faut en plus pour passer. En fait, il faut de l'autoritarisme, il faut une volonté de prise de pouvoir par la violence, d'annexer toutes les sphères de la société, même les sphères sociales, ouais. À travers un contrôle absolu de l'État.
Ok.
Voilà, donc c'est un peu plus méchant que ça.
J'irai revoir la définition.
Par contre, on peut noter que ce parti a eu l'intelligence de ne pas soutenir Poutine. Et ça a sans doute joué fortement dans son succès aux dépens de la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Eh oui. Bon, vu comme j'expédie ces aspects, tu te doutes probablement, Mathieu, que je vais revenir à mon dada d'autrefois. L'économie. Il est content, Mathieu, il adore ça. On va s'intéresser à la situation économique de l'Italie. Comment ce pays en est arrivé à une domination si forte de l'extrême droite, au point que même la droite officielle est marginalisée? C'est simple, Mathieu. L'Italie est le pays malade de l'Europe. C'est le seul pays de l'Union européenne où les salaires ont baissé en 30 ans, entre 90 et 2020. Baisser, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans un système capitaliste fondé sur la croissance. Les salaires ont baissé de 3%. En France, ils ont augmenté dans la même période de 31%.
Ouais.
En Allemagne, de 34%. Donc c'est une situation catastrophique. Le PIB italien, la création de richesse, c'est celui qui a augmenté le plus faiblement depuis l'entrée de l'Italie dans l'euro, fin des années 90. Le PIB italien a même diminué depuis 2007. Ils se sont jamais remis du krach financier de 2008. En fait, les problèmes économiques de l'Italie, parce que là je parle des 20 dernières années, mais ils ont commencé avant en fait, ils ont commencé dès les années 70. Mais jusqu'à la fin des années 80, milieu des années 90, l'Italie a pu jouer sur la dévaluation de sa monnaie, on diminue la valeur de sa monnaie pour retrouver régulièrement un peu de compétitivité. C'est-à-dire que les produits à l'exportation sont moins chers, donc plus compétitifs, et donc on se rattrape comme ça. Sauf que cette possibilité a disparu avec l'entrée de l'Italie dans l'euro, l'euro ne dévalue pas, évidemment. Et le fait que l'Italie soit un pays économiquement malade depuis les années 70 se voit dans l'endettement. La dette publique italienne était déjà au-delà de 100% du PIB dès les années 90, alors que les autres pays d'Europe de l'Ouest étaient tous à moins de 70%, et largement moins même. Donc, avec cette situation, alors à l'époque, c'était pas trop gênant en fait que le pays soit très endetté, parce que à l'époque, dans les années 90, la dette était largement détenue par les Italiens eux-mêmes. Ça veut dire que le pays ne dépendait pas trop de l'étranger, tout comme la dette japonaise aujourd'hui, par exemple. Mais ça a changé petit à petit. Et aujourd'hui, la dette italienne est largement détenue par les marchés financiers. Donc là, il y a une vraie dépendance vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des marchés financiers. Pour info, aujourd'hui, la dette italienne, c'est 150% du PIB. Je parle de la dette publique, bien sûr. La France, c'est 115%. Différence de volume quand même importante. Pourtant, l'Italie était et reste encore une puissance industrielle assez sérieuse. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'un élément important de son succès, de son industrie, résultait dans ce qu'on appelle sa compétitivité prix, c'est-à-dire sa capacité à vendre des produits pas chers. Sauf qu'avec la montée en puissance des pays émergents, Asie du Sud-Est notamment, dans les années 90-2000, et l'entrée dans la zone euro, et pendant la première période, les 10 premières années, l'euro était un euro fort, donc dont la valeur pénalisait les exportations italiennes. Eh bien, tout ça, ça a été l'arrêt de mort de la compétitivité prix italienne.
Bah, oui.
D'accord. Donc, résultat, depuis 20 ans, l'Italie perd constamment des parts de marché internationales. Bon, le tableau est assez noir, hein.
D'accord. Oui, oui.
Et j'ai pas encore fini, j'ai pas abordé la situation actuelle. Mais tu dois te demander, Mathieu, bon, qu'est-ce qu'ils ont foutu les gouvernements italiens durant ces 20-25 ans, pour essayer de trouver des solutions.
Ça vient d'où cette situation catastrophique et...
Alors, ça vient d'où? Ça vient de, bah, d'une situation médiocre dans les années 70-80 et de l'entrée, bah, la montée en puissance des pays émergents, l'entrée dans la zone euro qui a globalement handicapé l'Italie, hein, c'est le pays qui s'est le moins bien sorti de l'entrée dans la zone euro. Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour, je dirais, montrer patte blanche face à l'Union européenne, hein, parce que son endettement record, c'était très au-dessus des normes acceptées par l'Union européenne, du moins pour les pays de la zone euro, eh bien, les gouvernements italiens ont, pendant des années, dû présenter des budgets annuels, budgets de l'État, excédentaires. Tout ça pour essayer de se désendetter. Alors, on fait comment pour avoir un budget excédentaire? C'est très simple. On mène des politiques d'austérité, des politiques de rigueur. Ça veut dire qu'on étrangle la demande, donc pas d'augmentation de salaire pendant des années. La demande très affaiblie, ça fait quoi? Bah, ça fait que la croissance est très faible. Mmh. Et la croissance est très faible, donc ça empêche les entreprises de réaliser suffisamment de bénéfices. Et les entreprises qui ne réalisent pas suffisamment de bénéfices n'investissent pas. Et si elles n'investissent pas, eh bien, la productivité se dégrade. C'est exactement ce qui s'est passé. La productivité de l'Italie s'est globalement effondrée depuis 20 ans. Mmh. Et ça, ça aggrave les problèmes de compétitivité de l'industrie italienne et de l'économie italienne. On est en plein dans cette logique, hein. Je te cite par exemple, après 2010, parce qu'avant ça commence à dater un peu, le gouvernement Monti entre 2011-2013 a fait de l'austérité, le gouvernement Renzi 2013-2016 a fait de l'austérité, en 2014 Matteo Renzi sort son Job Act qui est rien d'autre qu'une politique de flexibilisation du droit du travail, du marché du travail, politique de l'offre, bref la panoplie macronienne habituelle. Tout ça, ça n'a fait que confirmer cet étouffement de l'économie italienne et de la croissance italienne. Si on ajoute à ça, eh bien, la démographie italienne qui est en chute libre, l'Italie perd en 8 ans, ces 8 dernières années, a perdu 1,36 million d'habitants. Donc ça fait autant de demandes en moins, une population en baisse. Si on rajoute à ça la coupure nord-sud structurelle qui existe depuis des décennies et qui handicape énormément l'économie italienne et l'État italien, un système éducatif très peu performant, bon bah... On a un peu les explications de ces performances catastrophiques, quoi. Mais j'ai pas fini, parce que maintenant, on va passer à la période actuelle. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a eu depuis 3 ans? Il y a eu le Covid. Eh oui, le Covid.
Et je crois que ça a été très, très difficile en Italie.
Ouais, c'était le premier pays touché, très violemment touché, d'accord. Et donc, en 2020, comme partout dans le monde, l'économie italienne s'est arrêtée. Donc, comme partout dans le monde, les dépenses publiques en Italie ont explosé. Et donc, l'endettement a explosé également. La dette publique était de 130% du PIB, elle est passée en un claquement de doigts à 150% du PIB. Voilà. Plus récemment, en 2021-2022, l'inflation.
Eh oui.
Voilà, l'inflation, 9% sur un an, hein, en Italie. En France, c'est plutôt 6%. Sauf que je l'ai dit, hein, les salaires augmentent très peu, voire quasiment pas en Italie. Donc, inflation avec des salaires qui n'augmentent pas, c'est du pouvoir d'achat en baisse. Puis violemment, hein, 9%, c'est du 7-8% au minimum, voire 9% de perte de pouvoir d'achat sur un an. C'est énorme. D'accord. Donc, angoisse des Italiens. Ouais. Pour info, les prix des produits alimentaires ont augmenté 10,5% en Italie sur un an. Bon, c'est un peu pareil en France. Ceux de l'énergie, attention, 45% d'augmentation en un an.
Wow.
C'est 22% en France. Ça, c'est des coûts terribles pour les budgets des ménages italiens. Mais pas que. Pour les entreprises, c'est des coûts terribles, les coûts énergétiques. Et le patronat italien est extrêmement inquiet pour les mois à venir. Il craint une vague de faillite absolument terrible. Bon, allez, un petit point positif dans ce tableau absolument noir de la situation italienne. L'aide de l'Union européenne, le fameux plan de relance, représente 222 milliards d'euros, donc c'est quand même pas mal. Hein, d'accord ? En Italie, ils l'appellent le plan national de relance et de résilience. Ce plan est conditionné à des mesures alors, d'investissement dans des domaines énergie verte, etc., ce qui est très bien, mais aussi conditionné à des mesures de libéralisation économique, les habituelles politiques de flexibilisation du travail, blablabla, politique de l'offre, le truc habituel, quoi. Et ça, c'est un des axes que la coalition droite-extrême-droite a choisi, et notamment Giorgia Meloni et son parti, hein, Fratelli d'Italia, pour se différencier de ses concurrents. Non, d'ailleurs, même pas. C'est plutôt elle, Fratelli d'Italia, plus que ses collègues de la droite officielle et de Matteo Salvini, qui a choisi de critiquer fortement ce plan. Elle a dit « Moi, j'arrive au pouvoir, je vais renégocier ce plan avec l'Union européenne ». Elle est marrante, hein, Georgia.
Souvent.
On la fait rire. Vas-y, Georgia, vas-y, tu nous fais rire. Il y a à peu près 98% de chances qu'elle renégocie rien du tout. On lui offrira un carambar, histoire qu'elle ne perde pas la face, mais ça va s'arrêter là, quoi. Faut pas arriver. Donc, à part les habituels discours conservateurs, xénophobes de ce type de parti, c'est quoi qui a fait leur succès à Fratelli d'Italia? Eh bien, le point commun cette fois-ci de toute cette coalition d'extrême droite et droite, c'est qu'ils ont fortement critiqué les politiques d'austérité et pro-européenne du gouvernement Draghi et de tous les gouvernements précédents. Ok, ils proposent quoi donc? À la place, ils proposent un programme très libéral, comme c'est étonnant. Une baisse massive des impôts, censé être financé par des entrées d'argent qui seraient dues aux amnisties des fraudeurs. Les fraudeurs sont amnistiés, en contrepartie ils payent, et donc ça compense. Là on rigole un maximum, hein, parce que les entrées d'argent ça va être 3 francs 6 sous, ça va rien financer du tout. Une baisse de l'impôt sur le revenu, ils veulent passer un impôt sur le revenu, petite flat tax de 15%, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un impôt progressif qui réduit les inégalités, on passe à un impôt 15% pour tout le monde qui bénéficie aux catégories les plus aisées, bien entendu, aux plus riches. Et puis, des baisses d'impôts sur la production, des baisses de cotisations sociales, côté politique de l'offre. Donc, une politique centrée sur les entreprises et les citoyens à haut revenu uniquement. Une politique qui va accentuer le déficit budgétaire américain, vont se retrouver dans la ligne de mire de l'Union européenne, et qui, globalement, a de grandes chances de n'avoir aucun effet positif sur la croissance. Conclusion, ma chronique est donc une sorte de chronique d'une désillusion annoncée. L'Italie n'est pas prête de sortir de l'ornière. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À tout bientôt.
Quando facciamo